S'il est prouvé, lui dit Derville après l'avoir écouté, que le prêteur ne possédait plus chez Roguin la somme que Roguin vous faisait lui prêter, comme s'il n'y a pas eu délivrance d'espèces, il n'y a lieu à rescission. Le prêteur aura son recours sur le cautionnement, comme vous pour vos 100 000 francs. Je réponds alors du procès, autant qu'on peut en répondre. Il n'y a pas de procès gagné d'avance. L'avis d'un si fort jurisconsulte rendit un peu de courage au parfumeur, qui pria Derville d'obtenir jugement dans la quinzaine. L'avoué répondit que peut-être il aurait avant 3 mois un jugement qui annulerait le contrat. « Dans 3 mois ?» dit le parfumeur, qui croyait avoir trouvé des ressources. « Mais tout en obtenant une prompte mise au rôle, nous ne pouvons pas mettre votre adversaire à votre pas. Il usera des délais de la procédure, les avocats ne sont pas toujours là. Qui sait si votre partie adverse ne se laissera pas condamner par défaut ?»« On ne marche pas comme on veut, mon cher maître, » dit Derville en souriant. « Mais au tribunal de commerce, » dit Birotteau. Oh, dit l'avoué, les juges consulaires et les juges de première instance sont deux sortes de juges. Vous autres, vous sabrez les affaires. Au palais, nous avons des formes. La forme est protectrice du droit. Aimeriez-vous un jugement à brûle-pourpoint qui vous ferait perdre vos 40 000 francs? Eh bien, votre adversaire qui va voir cette somme compromise se défendra. Les délais sont les chevaux de frise judiciaires. Vous avez raison, dit Birotteau, qui salua Derville et sortit la mort dans le cœur. « Ils ont tous raison. De l'argent, de l'argent !» criait le parfumeur par les rues, en se parlant à lui-même, comme font tous les gens affairés de ce turbulent et bouillonnant Paris, qu'un poète moderne nomme une cuve. En le voyant entrer, celui de ses commis qui allait partout présentant les mémoires, lui dit que, vu l'approche du jour de l'an, chacun rendait l'acquis de la facture et la gardait. « Il n'y a donc d'argent nulle part !» dit le parfumeur à haute voix dans la boutique. Il se mordit les lèvres. Ses commis avaient tous levé la tête vers lui. 5 jours se passèrent ainsi. 5 jours pendant lesquels Brachon, Lourdois, Thorin, Grindot, Chaffaroux, tous les créanciers non réglés, passèrent par les phases caméléonesques que subit le créancier avant d'arriver de l'état paisible où le met la confiance aux couleurs sanguinolentes de la bélone commerciale. À Paris, la période astringente de la défiance est aussi rapide à venir que le mouvement expansif de la confiance est lent à se décider. Une fois tombé dans le système restrictif des craintes et des précautions commerciales, le créancier arrive à des lâchetés sinistres qui le mettent au-dessous du débiteur. D'une politesse doucereuse, les créanciers passèrent au rouge de l'impatience, au pétillement sombre des importunités, aux éclats du désappointement, au froid bleu d'un parti pris et à la noire insolence de l'assignation préparée. Brachon, ce riche tapissier du faubourg Saint-Antoine, qui n'avait pas été invité au bal, sonna la charge en créancier blessé dans son amour-propre. Il voulait être payé dans les 24 heures. Il exigeait des garanties, non des dépôts de meubles, mais une hypothèque inscrite après les 40 000 francs sur les terrains du faubourg. Malgré la violence de leurs réclamations, ils laissèrent encore quelques intervalles de repos pendant lesquels Birotteau respirait. Au lieu de vaincre ses premiers tiraillements d'une position difficile par une résolution forte, César usa son intelligence à empêcher que sa femme, la seule personne qui pût le conseiller, ne l'ait connue. Il faisait sentinelle sur le seuil de sa porte, autour de sa boutique. Il avait mis Célestin dans le secret de sa gêne momentanée, et Célestin examinait son patron d'un regard aussi curieux qu'étonné. À ses yeux, César s'amoindrissait, comme s'amoindrissent dans les désastres les hommes habitués au succès et dont toute la force consiste dans l'acquis que donne la routine aux moyennes intelligences. Sans avoir l'énergique capacité nécessaire pour se défendre sur tant de points menacés à la fois, César eut cependant le courage d'envisager sa position. Pour la fin du mois de décembre et le 15 janvier, il lui fallait, tant pour sa maison que pour ses échéances, ses loyers et ses obligations au comptant, une somme de 60 000 francs, dont 30 000 pour le 30 décembre. Toutes ses ressources en donnaient à peine 20 000, il lui manquait donc 10 000 francs. Pour lui, rien ne parut désespéré, car il ne voyait déjà plus que le moment présent, comme les aventuriers qui vivent au jour le jour. Avant que le bruit de sa gêne ne devînt public, il résolut donc de tenter ce qui lui paraissait un grand coup, en s'adressant au fameux François Keller, banquier, orateur et philanthrope, célèbre par sa bienfaisance et par son désir d'être utile au commerce parisien, en vue d'être toujours à la Chambre un des députés de Paris. Le banquier était libéral, Birotteau était royaliste, Mais le parfumeur le jugea d'après son cœur et trouva dans la différence des opinions un motif de plus pour obtenir un compte. Au cas où des valeurs seraient nécessaires, il ne doutait pas du dévouement de Popinot, auquel il comptait demander une 30 000 francs d'effets qui aideraient à atteindre le gain de son procès, offert en garantie aux créanciers les plus altérés. Le parfumeur expansif, qui disait sur l'oreiller à sa chère Constance les moindres émotions de son existence, qui y puisait du courage, qui y cherchait les lumières de la contradiction, ne pouvait s'entretenir de sa situation ni avec son premier commis, ni avec son oncle, ni avec sa femme. Ses idées lui pesaient doublement, mais il aimait mieux souffrir que de jeter ce brasier dans l'âme de sa femme. Ce généreux martyr voulait lui raconter le danger quand il serait passé. Peut-être reculait-il devant cette horrible confidence. La peur que lui inspirait sa femme lui donnait du courage. Il allait tous les matins entendre une messe basse à Saint-Roch et il prenait Dieu pour confident. « Si, en rentrant de Saint-Roch chez moi, je ne trouve pas de soldat, ma demande réussira. Ce sera la réponse de Dieu, » se disait-il, après avoir prié Dieu de le secourir. Et il était heureux de ne pas rencontrer de soldat. Cependant, il avait le cœur trop oppressé. Il lui fallut un autre cœur où il pût gémir. Césarine, à laquelle il s'était déjà confié lors de la fatale nouvelle, eut tout son secret. Il y eut entre eux des regards jetés à la dérobée, des regards pleins de désespoir et d'espoir étouffé, des invocations lancées avec une mutuelle ardeur, des demandes et des réponses sympathiques, des lueurs d'âme à âme. Birotteau se faisait gai, jovial pour sa femme. Constance faisait-elle une question ? Baf, tout allait bien. Popinot, auquel César ne pensait pas, réussissait, l'huile s'enlevait, les effets claparons seraient payés, il n'y avait rien à craindre. Cette fausse joie était effrayante. Quand sa femme était endormie dans ce lit somptueux, Birotteau se dressait sur son séant, il tombait dans la contemplation de son malheur. Césarine arrivait parfois alors en chemise, un châle sur ses blanches épaules, pieds nus. « Papa, je t'entends, tu pleures !» disait-elle en pleurant elle-même. Birotteau fut dans un tel état de torpeur, après avoir écrit la lettre par laquelle il demandait un rendez-vous au grand François Keller, que sa fille l'emmena dans Paris. Il aperçut seulement alors dans les rues d'énormes affiches rouges et ses regards furent frappés par ces mots « huile céphalique ». Pendant les catastrophes occidentales de la Reine des Roses, la maison à Popinot se levait radieuse dans les flammes orientales du succès. Conseillée par Gaudissart et par Finot, Anselme avait lancé son huile avec audace. 2 000 affiches avaient été mises depuis 3 jours aux endroits les plus apparents de Paris. Personne ne pouvait éviter de se trouver face à face avec l'huile céphalique et de lire une phrase concise, inventée par Finot, sur l'impossibilité de faire pousser les cheveux et sur le danger de les teindre, accompagnée de la citation du mémoire lu à l'Académie des sciences par Vauquelin. Un vrai certificat de vie pour les cheveux morts, promis à ceux qui useraient de l'huile céphalique. Tous les coiffeurs de Paris, les perruquiers, les parfumeurs, avaient décoré leurs portes de cadres dorés, contenant un bel imprimé sur papier vélin, en tête duquel brillait la gravure d'Héro et de Léandre, réduite, avec cette assertion en épigraphe, « Les anciens peuples de l'Antiquité conservaient leur chevelure par l'emploi de l'huile céphalique ». Il a inventé les cadres permanents, l'annonce éternelle, se dit Birotteau, qui demeura stupéfait en regardant la devanture de la cloche d'argent. « Tu n'as donc pas vu chez toi, lui dit sa fille, un cadre que Monsieur Anselme est venu lui-même apporter, en déposant à Célestin 300 bouteilles d'huile ?»« Non, dit-il, Célestin en a déjà vendu 50 à des passants et 60 à des pratiques. »« Ah, dit César !» Le parfumeur, étourdi par les 1 000 cloches que la misère tint aux oreilles de ses victimes, vivait dans un mouvement vertigineux. La veille, Popinot l'avait attendu pendant 1 heure et s'en était allé après avoir causé avec Constance et Césarine qui lui dirent que César était absorbé par sa grande affaire. Ah oui, l'affaire des terrains. Heureusement, Popinot, qui depuis un mois n'était pas sorti de la rue des 5 Diamants, passait les nuits et travaillait les dimanches à la fabrique, n'avait jamais vu ni les Ragons, ni les Pillerault, ni son oncle le juge. Il ne dormait que 2 heures, le pauvre enfant. Il n'avait que 2 commis, et au train dont allaient les choses, il lui en faudrait bientôt 4. En commerce, l'occasion est tout. Qui n'enfourche pas le succès en se tenant au crin, manque sa fortune. Popino se disait qu'il serait bien reçu quand, après 6 mois, il dirait à sa tante et à son oncle « Je suis sauvé, ma fortune est faite ». Bien reçu de Birotteau quand il lui apporterait 30 ou 40 000 francs pour sa part, après 6 mois. Il ignorait donc la fuite de Roguin, les désastres et la gêne de César. Il ne put dire aucune parole indiscrète à Madame Birotteau. Popino promit à Finot 500 francs par grand journal, et il y en avait 10. 300 francs par journal secondaire, et il y en avait 10 autres. S'il y était parlé, 3 fois par mois de l'huile céphalique. Finot vit 3 000 francs pour lui dans ses 8 000 francs, son premier enjeu à jeter sur le grand et immense tapis vert de la spéculation. Il s'était donc élancé comme un lion sur ses amis, sur ses connaissances. Il habitait alors les bureaux de rédaction. Il se glissait au chevet du lit de tous les rédacteurs, le matin, et le soir il arpentait les foyers de tous les théâtres. « Pense à mon huile, cher ami. Je n'y suis pour rien, affaire de camaraderie, tu sais. » Gaudissart, un bon vivant. Telle était la première et la dernière phrase de tous ses discours. Il assaillit le bas de toute colonne finale aux journaux, où il fit des articles en en laissant l'argent au rédacteur. Rusé comme un figurant qui veut passer acteur, alerte comme un saute-ruisseau qui gagne 60 francs par mois, il écrivit des lettres captieuses, il flatta tous les amours-propres, il rendit d'immondes services au rédacteur en chef afin d'obtenir ses articles. Argent, dîner, platitude, tout servit son activité passionnée. Il corrompit avec des billets de spectacle les ouvriers qui, vers minuit, achèvent les colonnes des journaux en prenant quelques articles dans les petits faits, toujours prêts, les encas du journal. Finot se trouvait alors dans l'imprimerie, occupé comme s'il avait un article à revoir. Ami de tout le monde, il fit triompher l'huile céphalique de la pâte de Regnault, de la mixture brésilienne, de toutes les inventions qui, les premières, eurent le génie de comprendre l'influence du journalisme et l'effet de piston produit sur le public par un article réitéré. Dans ce temps d'innocence, beaucoup de journalistes étaient comme les bœufs. Ils ignoraient leurs forces, ils s'occupaient d'actrices, de Florine, de Tully, de danseuses, des mariettes, etc. Ils régentaient tout et ne ramassaient rien. Les prétentions d'Andoche ne concernaient ni une actrice à faire applaudir, ni une pièce à faire jouer, ni ses vaudevilles à faire recevoir, ni des articles à faire payer. Au contraire, il offrait de l'argent en temps utile, un déjeuner à propos. Il n'y eut donc pas un journal qui ne parlât de l'huile céphalique, de sa concordance avec les analyses de Vauquelin, qui ne se moquât de ceux qui croient que l'on peut faire pousser les cheveux, qui ne proclamât le danger de l'éteindre. Ces articles réjouissaient l'âme de Gaudissart, qui s'armait de journaux pour détruire les préjugés et faisait sur la province ce que depuis les spéculateurs ont nommé, d'après lui, la charge à fond de train. Dans ce temps-là, les journaux de Paris dominaient les départements encore sans organes, les malheureux. Les journaux y étaient donc sérieusement étudiés, depuis le titre jusqu'au nom de l'imprimeur, ligne où pouvaient se cacher les ironies de l'opinion persécutée. Gaudissart, appuyé sur la presse, eut d'éclatants succès dans les premières villes où donna sa langue. Tous les boutiquiers de province voulaient des cadres et des imprimés à gravure d'Héros et Léandre. Finot dirigea contre l'huile de Macassar cette charmante plaisanterie qui faisait tant rire aux funambules quand Pierrot prend un vieux balai de crin dont on ne voit que les trous, y met de l'huile de Macassar et rend ainsi le balai forestièrement touffu. Cette scène ironique excitait un rire universel. Plus tard, Finot racontait gaiement que, sans ses 1000 écus, il serait mort de misère et de douleur. Pour lui, 1000 écus étaient une fortune. Dans cette campagne, il devina, lui le premier, le pouvoir de l'annonce, dont il fit un si grand et si savant usage. 3 mois après, il fut rédacteur en chef d'un petit journal, qu'il finit par acheter et qui fut la base de sa fortune. De même que la charge à fond de train faite par l'illustre Gaudissart, le Murat des voyageurs, sur les départements et les frontières, fit triompher commercialement la maison à Popino. De même, elle triompha dans l'opinion, grâce au famélique assaut livré aux journaux, et qui produisit cette vive publicité, également obtenue par la mixture brésilienne et la pâte de Regnault. À son début, cette prise d'assaut de l'opinion publique engendra 3 succès, 3 fortunes, et valut l'invasion des 1000 ambitions descendues depuis en bataillons épais dans l'arène des journaux, où elles créèrent les annonces payées, immense révolution. En ce moment, la maison A. Popino et compagnie se pavanait sur les murs et dans toutes les devantures. Incapable de mesurer la portée d'une pareille publicité, Birotteau se contenta de dire à Césarine « Ce petit Popinot marche sur mes traces !» Sans comprendre la différence des temps, sans apprécier la puissance des nouveaux moyens d'exécution, dont la rapidité et l'étendue embrassaient beaucoup plus promptement qu'autrefois le monde commercial. Birotteau n'avait pas mis le pied à sa fabrique depuis son bal. Il ignorait le mouvement et l'activité que Popinot y déployait. Anselme avait pris tous les ouvriers de Birotteau. Il y couchait. Il voyait Césarine assise sur toutes les caisses, couchée dans toutes les expéditions, imprimée sur toutes les factures. Il se disait « Elle sera ma femme ». Quand, la chemise retroussée jusqu'au coude, habit bas, il enfonçait rageusement les clous d'une caisse, à défaut de ses commis en course. Le lendemain, après avoir étudié pendant toute la nuit tout ce qu'il devait dire et ne pas dire à l'un des grands hommes de la haute banque, César arriva à rue du Houssay et n'aborda pas, sans d'horribles palpitations, l'hôtel du banquier libéral qui appartenait à cette opinion accusée, à si juste titre, de vouloir le renversement des Bourbons. Le parfumeur, comme tous les gens du petit commerce parisien, ignorait les mœurs et les hommes de la haute banque. À Paris, entre la haute banque et le commerce, il est des maisons secondaires, intermédiaires utiles à la banque. Elle y trouve une garantie de plus. Constance et Birotteau, qui ne s'étaient jamais avancés au-delà de leurs moyens, dont la caisse n'avait jamais été à sec et qui gardaient leurs effets en portefeuille, n'avaient jamais eu recours à ces maisons de second ordre. Ils étaient, à plus forte raison, inconnus dans les hautes régions de la banque. Peut-être est-ce une faute de ne pas se fonder un crédit même inutile. Les avis sont partagés sur ce point. Quoi qu'il en soit, Birotteau regrettait beaucoup de ne pas avoir émis sa signature. Mais, connu comme adjoint et comme homme politique, il crut n'avoir qu'à se nommer et entrer. Il ignorait l'affluence quasi royale qui distinguait l'audience de ce banquier. Introduit dans le salon, qui précédait le cabinet de l'homme célèbre à tant de titres, Birotteau s'y vit au milieu d'une société nombreuse, composée de députés, écrivains, journalistes, agents de change, hauts commerçants, gens d'affaires, ingénieurs, surtout de familiers qui traversaient les groupes et frappaient d'une façon particulière à la porte du cabinet où ils entraient par privilège. « Que suis-je au milieu de cette machine ?» se dit Birotteau, tout étourdi par le mouvement de cette forge intellectuelle où se manutentionnait le pain quotidien de l'opposition, où se répétaient les rôles de la grande tragicomédie jouée par la gauche. Il entendait discuter à sa droite la question de l'emprunt pour l'achèvement des principales lignes de canaux proposées par la direction des ponts et chaussées, et il s'agissait de millions. À sa gauche, des journalistes, à la curée de l'amour-propre du banquier, s'entretenaient de la séance d'hier et de l'improvisation du patron. Durant 2 heures d'attente, Birotteau aperçut 3 fois le banquier politique, reconduisant à 3 pas au-delà de son cabinet des hommes considérables. François Keller alla jusqu'à l'antichambre pour le dernier, le général Foy. « Je suis perdu !» se dit Birotteau, dont le cœur se serra. Quand le banquier revenait à son cabinet, la troupe des courtisans, des amis, des intéressés, l'assaillait comme des chiens qui poursuivent une jolie chienne. Quelques hardis roquets se glissaient malgré lui dans le sanctuaire. Les conférences duraient 5 minutes, 10 minutes, 1 quart d'heure. Les uns s'en allaient contrits, les autres affichaient un air satisfait ou prenaient des airs importants. Le temps s'écoulait. Birotteau regardait avec anxiété la pendule. Personne ne faisait la moindre attention à cette douleur cachée qui gémissait sur un fauteuil doré au coin de la cheminée, à la porte de ce cabinet où résidait la panacée universelle, le crédit. César pensait douloureusement qu'il avait été un moment chez lui roi, comme cet homme était roi tous les matins, et il mesurait la profondeur de l'abîme où il était tombé. Amère pensée, combien de larmes rentraient durant cette heure passée là. Combien de fois Birotteau supplia Dieu de lui rendre cet homme favorable, car il lui trouvait, sous une grosse enveloppe de bonhomie populaire, une insolence, une tyrannie colérique, une brutale envie de dominer qui épouvantait son âme douce. Enfin, quand il n'y eut plus que 10 ou 12 personnes, Birotteau se résolut, quand la porte extérieure du cabinet grognerait, de se dresser, de se mettre au niveau du grand orateur en lui disant « Je suis Birotteau ». Le grenadier qui s'élança le premier dans la redoute de la Moscova ne déploya pas plus de courage que le parfumeur n'en rassembla pour se livrer à cette manœuvre. « Après tout, je suis son adjoint », se dit-il, en se levant pour décliner son nom.